Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous ne savez pas par où commencer. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 582. J'espère que vous avez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez un projet, que vous avez envie de créer du contenu. Et vous savez que je suis là pour vous aider à créer du contenu, à venir impacter le monde à votre manière. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit format que je fais régulièrement, en fait, sans trop vous le dire. Ce sont des réactions à des trucs que j'ai lus, à des choses que j'ai vues, etc. Vous savez, c'est comment je nourris, en fait, ces épisodes avec mon quotidien. Et en fait, sur mes étagères, j'avais un livre qui s'appelle « Demander à Deepak » et le sous-titre, c'est « Le succès ». Alors, ces livres, en fait, sont des réponses de Deepak Chopra aux questions qui lui sont posées par mail, par je sais pas quoi. En fait, il a collecté plein de réponses à des messages qu'il a reçus. Il a en fait des livres. Alors, Deepak, si vous le connaissez pas, Deepak Chopra, c'est fréquemment appelé le gourou de la santé, en fait. C'est un Américain d'origine indienne qui est à l'origine médecin endocrinologue, auteur sur la spiritualité, physique quantique, médecine alternative, qui a eu des grands maîtres yogis vraiment dans son parcours, etc. Il a écrit des livres qui sont traduits dans 30 ou 35 langues. Plus de 10 millions d'exemplaires ont été vendus, donc autant vous dire que il a construit un empire autour de tout ça. Et en 1999, il avait été classé parmi les 100 personnalités les plus marquantes du siècle par le magazine Time. Bon, en même temps, il a été critiqué par les sceptiques scientifiques comme étant un charlatan, un uluberlu incroyablement arrogant et condescendant. Voilà, donc il a ses adorateurs et ses détracteurs, ce qui explique aussi son succès, hein, vraiment son succès. Voilà, on peut pas voir si on est aimé par tout le monde, on est trop tiède. Donc là, il y a les gens qui l'adorent et les gens qui ne l'aiment pas du tout. Et moi, j'avoue que je ne suis pas un grand connaisseur de ses écrits. Voilà, mais en fait, on m'avait offert ce livre, et dans ce livre, des fois, je vais piocher un petit peu de voir des questions, des choses comme ça qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Je vous donne un exemple. Une question qui lui a été posée. Alors, la question, elle est un petit peu longue, et j'ai résumé, j'ai regardé que le truc qui m'intéresse vraiment dedans. C'est une personne qui a 17 ans qui dit « Je désire écrire un livre, mais j'ai peur. J'ai peur de me faire pointer du doigt, car je ne suis pas encore une personne connue. » Car je n'ai pas encore atteint mon plein épanouissement, car j'ai peur d'être jugé, en fait. Voilà, grosso modo, c'est vraiment ça. Et la question, c'est dois-je écrire mon livre maintenant ou attendre? Et la réponse de Deepak Chopra, c'est vous voulez écrire un livre, eh ben allez de l'avant, écrivez votre livre. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres vont penser, ne vous préoccupez pas d'être connu. Mon seul conseil serait qu'au lieu d'écrire un livre dans le but de guider les autres, concentrez-vous simplement à raconter votre histoire la plus minutieusement et honnêtement possible. Laissez au lecteur le soin d'identifier ce qu'il trouve utile dans sa propre vie, pour sa propre vie. Alors, c'est un constat qui, cette phrase qui est vraiment intéressante pour moi, c'est que, en fait, c'est un constat qu'on fait souvent dans le livre qu'on peut lire et qui vous marque un peu. Regardez un petit peu les livres que vous lisez, mais aussi les contenus, les vidéos, les podcasts, etc., que tout le contenu que vous consommez, et essayez de regarder à quel point il y a une sorte de j'allais dire, alors en anglais c'est un pattern, mais une répétition, un motif de répétition sur finalement des choses qui vous attrapent, j'ai envie de dire, qui vous marque, qui vous donne envie de bouger ou quoi que ce soit. Et en fait, ça nous ramène au storytelling, cette histoire. La règle du storytelling, j'ai fait des épisodes sur le storytelling, j'ai fait une formation sur le storytelling, donc je vais pas vous refaire le schéma du storytelling complet, c'est de raconter une histoire avec un héros, et souvent on se trompe de héros quand on veut raconter tout ça. C'est que souvent on a une tendance à se dire « Oui, mais si je fais un livre, quel est le héros que je vais avoir ? Quand je fais mes contenus, quel est le héros ?» Et quand on fait nos contenus, souvent, vous voyez dans les biographies, le héros de la biographie, bah, c'est, et dans l'autobiographie, donc c'est souvent la personne qui écrit le bouquin. Et le conseil que l'on donne souvent, c'est qu'on dit « Bah oui, mais si vous voulez vendre des produits, si vous voulez que les gens s'identifient, si vous voulez que vraiment aider les personnes, en fait, le héros de l'histoire que l'on doit raconter, c'est pas notre histoire à nous, c'est le héros vraiment, c'est notre cible, notre audience, hein. Donc, vous êtes mes héros de mon histoire, en fait. Et là, vous vous dites, mais finalement, ça semble aller à l'inverse du conseil donné, parce que Deepak, il dit, oui, bah, vous racontez votre histoire la plus minutieusement et honnêtement possible. Et tout ça, en fait, il y a un moment donné où, pour beaucoup de gens, il y a une espèce de point d'accroche, vous voyez, il y a un point d'accroche. Alors que pourtant, c'est l'essentiel des choses. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire de dire que dans le storytelling idéal, notre héros, c'est notre audience, donc mes héros à moi, c'est vous, n'est pas incompatible avec le fait que je doive raconter mon histoire à moi. Elle est tellement pas incompatible, en fait, que c'est ce qui fait la clé du succès et c'est ce qui fait que ça marche le plus souvent possible. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que nous, finalement, on est quoi dans cette histoire-là ? On est les guides, voilà, on est les guides. Et donc, en tant que guide, en fait, eh ben, il faut que l'on inspire, il faut que l'on donne confiance, il faut que l'on montre ce que l'on a réussi à faire. Et en fait, le héros de notre histoire, il est inspiré par nous. C'est-à-dire que quand on raconte quelque chose, oui, le héros, c'est bien notre lecteur, c'est bien notre audience. Vous êtes bien mes héros. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le héros, quand vous regardez le récit du héros, etc., c'est qu'en fait, il a toujours un guide qui va lui montrer comment on passe les choses, comment on fait les choses. Si maintenant, par exemple, vous imaginez, vous voulez faire des formations, vous voulez aider les gens par le biais de formations, mais ça peut être un livre ou quoi que ce soit. Imaginez, c'est ce que je donnais un exemple il n'y a pas longtemps à quelqu'un, je disais, imaginez qu'il y a une rivière. En fait, vous savez traverser la rivière parce que vous savez qu'il faut mettre les pieds sur telle ou telle pierre et vous savez traverser la rivière. Mais la personne qui arrive derrière qui a besoin d'aide pour traverser la rivière, qui ne sait pas comment faire traverser la rivière, et qui vient de taper « comment traverser la rivière » sur Google ou sur YouTube ou je ne sais où, elle ne sait pas comment traverser la rivière. Et là, face à elle, elle trouve quelqu'un qui vient lui donner un conseil et qui va lui dire « écoute, moi j'ai déjà traversé la rivière et je sais comment traverser la rivière. Je vais te montrer comment traverser la rivière parce que je l'ai déjà fait. Je vais te montrer que en mettant le pied sur cette pierre-là, elle te semble peut-être bancale au départ, mais qu'en fait, c'est la pierre la plus solide pour toi. Que cette pierre-là qui te semblait tellement confortable, en fait, elle est extrêmement glissante, et qu'une fois que tu seras là-bas, tu seras pas capable de revenir ou tu vas être bloqué. Je vais te montrer que finalement, faire le premier pas pour traverser la rivière est peut-être plus simple que tu le penses, mais que le dernier pas que tu vas faire là-bas qui te semblait simple, attention, il est très risqué et que c'est là que tu peux tomber à l'eau. Voyez tous ces éléments-là. Raconter comme ça, c'est une histoire. Mais pourquoi ? Pourquoi le guide est capable de la raconter ? Parce qu'en fait, il l'a vécu. Et quand on regarde un petit peu les choses, le héros, finalement, il est inspiré par le fait qu'on ait passé la rivière et qu'on soit capable de lui montrer. J'ai envie de dire, on montre une photo, de dire, regarde, moi, la rivière, je suis déjà passé de l'autre côté. Regarde, moi, la rivière, je suis déjà de l'autre côté. Je t'attends de l'autre côté de la rivière. Et en fait, le fait de raconter en détail notre histoire est une manière de le guider. C'est pas de raconter notre bio comme ça pour raconter notre bio. C'est de prendre des éléments dans notre parcours qui vont servir au lecteur, à l'auditeur, au spectateur, j'ai envie de dire, aux fans, aux futurs super fans, pour faire la même chose, en lui montrant bien le chemin. Et donc, au lieu de vouloir juste guider, quand on veut faire des contenus en disant « voici ce qu'il faudrait faire, voici comment faire les choses, etc. », mais avec un ton qui peut parfois arriver en étant un petit peu moralisateur, ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est de partir des histoires que nous avons vécues, de les analyser, de les recouper, d'en tirer des enseignements, des conseils qui vont permettre de montrer finalement le chemin que nous avons pris et de le montrer en toute honnêteté. Il y a des moments où oui, c'était difficile. Il y a des moments où oui, c'est la grosse merde. Il y a des moments, on a des moments alléluia, j'ai envie de dire. Donc on a des réussites, des difficultés, on a des moments de doute, on a des moments où on sait pas trop comment faire les choses, on a des moments où on essaye des choses, il y a des moments où on se dit mais je vais jamais y arriver, puis des moments où on se dit waouh, alors ça, ce truc là, c'est génial et tout, j'ai trouvé le succès, etc. J'ai trouvé la réussite pour faire ça, si je reprends le livre de Deepak Chopra, mais le succès dans ce que l'on fait. Succès par exemple, si vous êtes dans l'apprentissage des langues, il y a un moment donné, vous avez trouvé le succès pour apprendre un mot que vous n'arriviez jamais à avoir le sens. Par exemple, je sais pas, en anglais, le mot confidence, pendant des mois et des mois, vous n'arriviez pas à savoir comment l'utiliser vraiment, etc. Et tout d'un coup, où vous dites, ah oui, mais d'un coup, j'ai compris finalement le sens de ce mot, parce que je l'ai vu dans tel ou tel truc, j'ai vu dans tel ou tel truc, voici comment vous allez l'utiliser, comment vous allez faire ça, etc. C'est mes espèces de moments, alléluia. Si vous êtes prof de langue, en fait, comment vous avez compris ça? Pourquoi vous l'avez compris? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quelque chose qui va intéresser les gens qui sont derrière vous. C'est pareil dans le sport, c'est pareil dans la cuisine. Je sais pas, je regardais l'autre jour une émission de cuisine, vous voyez, par exemple Top Chef, vous pouvez dire, ils étaient en train de cuire des œufs. Bon, puis vous avez un grand chef 3 étoiles qui vous dit, voici comment j'ai inventé cette recette, c'était une connerie, c'était une erreur de mon apprenti, etc., qui a mis les œufs dans le congélateur au lieu de les mettre dans le froid ou je sais pas quoi, on s'est rendu compte que l'œuf était cuit, donc on a fait des essais, on s'est rendu compte de ça, de ça, de ça, de ça. il raconte avec une grande honnêteté l'histoire comme ça. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est pas de dire, voilà, je vous raconte ça parce que finalement, c'est une biographie et tout. Il vous raconte un petit peu l'histoire. Si vous, derrière, vous voulez vous inspirer, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que il y a une leçon à retenir de l'expérience que ce chef 3 étoiles, qui était Eric Fréchon, raconte. C'est de dire, l'œuf, une fois qu'il est congelé, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de le jeter comme ça en se disant, merde, c'est une connerie, et au lieu de virer le salarié, eh ben, on a ouvert l'œuf, on l'a regardé, et on s'est rendu compte que l'œuf qui était cuit comme ça, eh ben, enfin, qui était comme ça, a cuit d'une manière différente, qu'il avait un goût qui était particulier, et donc, à partir de ça, on a essayé de reproduire les choses. Et donc, si maintenant, vous lisez cette histoire-là, et que vous regardez un petit peu cette histoire-là, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous dire, ah oui, alors, des fois, on peut faire tel truc, je me suis rendu compte de ça, ou quoi que ce soit, et tiens, bon, bah, et si finalement, j'essayais d'en tirer un truc bénéfique, si finalement, ce truc-là, qui me semble être un peu raté dans ce que j'ai voulu faire, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être intéressant ou quoi que ce soit? Et c'est là, finalement, qui est bien intéressant, c'est que, bien sûr, on aimerait présenter un chemin idéal, mais en fait, il n'existe pas, le chemin idéal. Ce qu'on va expliquer, en fait, c'est le chemin parcouru et comment emprunter le même. Et là, quand vous faites ça, en fait, c'est là que vous avez la plus grande bienveillance et la plus grande sincérité, parce que au lieu de vous décrire ou de décrire un personnage idéal, etc., qui réussit tout, je ne sais pas quoi, qui montre un chemin parfait, idéal, qui n'existe pas et qui est en plus extrêmement intimidant, eh ben vous montrez un chemin dans lequel les gens vont dire ah oui mais tiens finalement ce gars là qui me semble comme ça inaccessible ou quoi que ce soit ou qui a fait un truc qui me semble pour moi incroyable et attention pour moi incroyable. Et on est tous incroyables pour quelqu'un d'autre. Et là, je voudrais vraiment le dire. On est tous incroyables pour quelqu'un d'autre. Si je prends dans tous ceux que vous m'avez envoyé comme message, dans toutes les gens que j'ai coachés, toutes les formations, etc., je peux vous dire que vous êtes tous incroyables pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui parle l'anglais couramment est incroyable pour moi, qui ne parle pas l'anglais couramment, je le comprends, etc. Mais quand il faut que je parle, si vous me mettez face à un Américain, je vais chercher mes mots. Quelqu'un qui arrivera à côté de moi comme ça et qui parle de la comme ça, tout, je le regarderai et je dirai, waouh, toi, ce que tu fais, c'est incroyable. Quelqu'un qui, à côté de moi, par exemple, arrive à monter un gâteau, je sais pas quoi, etc. et tout, sera incroyable pour moi. Quelqu'un qui fait du tricot et que moi, j'essaye de faire du tricot, enfin, j'essaie pas de faire du tricot, mais si j'essaye de faire du tricot, quelqu'un qui arrive à faire un pull serait incroyable pour moi. Si je veux l'exemple de l'harmonica, je vais apprendre à jouer de la musique, je vais apprendre à jouer de l'harmonica, je vais apprendre à jouer des instruments, etc. Quelqu'un qui sait jouer de la musique est incroyable pour moi. Et quelqu'un, même, j'ai pas besoin d'avoir un grand artiste de l'harmonica, quelqu'un qui aurait appris l'harmonica il y a 2-3 ans, qui a commencé l'harmonica il y a 2-3 ans et qui est capable de jouer des morceaux, devient incroyable pour moi parce que moi je n'arrive pas à jouer, parce que je m'entraîne pas assez, etc. à l'harmonica, ou parce que je suis dans le début de mon parcours et que je cherche encore les clés, mais que lui, en arrivant à jouer des morceaux, il a trouvé les clés pour jouer de l'harmonica. La conclusion de tout ça, c'est l'exercice que vous allez faire ce week-end, que vous allez faire dans les jours qui viennent, ou maintenant que vous écoutez cet épisode, c'est d'avoir un truc, de vous mettre dans une position qui est assez simple. En fait, regardez, vraiment regardez dans votre histoire, regardez ce que vous faisiez il y a quelques années, quand vous avez commencé dans ce que vous êtes en train d'essayer d'expliquer aux gens, dans ce que vous êtes en train d'essayer d'enseigner, dans ce que vous voulez montrer aux gens. Regardez ce qu'il y a quelques années, comment vous étiez. Alors, ça peut être de 3 ans, 5, 6 ans, peut-être un peu plus ancien, ça dépend à peu près où vous êtes dans votre parcours. Regardez ce qu'il y a dans quelques années, ce que quand vous avez commencé, ce que vous auriez bien aimé savoir, ce que vous essayez de faire à l'époque que vous n'arriviez pas à faire, les difficultés que vous rencontrez et ce que vous cherchez chez les autres. Pour un exemple tout simple, quand j'ai commencé le podcast, à un moment donné, qu'est-ce que je faisais? Je cherchais tous les articles de gens qui avaient des podcasts, je regardais un petit peu sur YouTube, je regardais un petit peu à droite à gauche, je regardais un petit peu le matériel qu'ils avaient. Quel matériel ils avaient, comment ils faisaient, leurs conseils qu'ils avaient, quel était l'hébergeur qu'ils avaient. J'ai passé des mois à chercher ce truc-là. Et maintenant, avec l'expérience, je sais que c'était une connerie. Je sais que j'ai perdu beaucoup de temps. Je sais que c'était pas possible. Je regardais aussi comment ils travaillaient sur la voix, comment ils travaillaient là-dessus, quel était leur truc et tout. Et je me suis rendu compte, forcément, que, il y a un moment donné, eh ben, la réponse à ces questions-là, c'était dans le fait de le faire régulièrement, dans l'expérience, etc. Rappelez-vous un épisode que j'ai fait avec Patrick Béja, par exemple, qui raconte très souvent que les premiers épisodes de son podcast, il y avait des « e », il faisait des au montage, il a essayé d'enlever toutes les « e », toutes les hésitations, etc. Et qui s'est rendu compte que finalement, c'était une perte de temps, mais que au bout d'un moment, bah, il devenait plus à l'aise en parlant et qu'il y a des hésitations et des choses comme ça, qu'il pouvait pas s'embêter non plus à tout enlever parce que finalement aussi, c'est ce qu'il faisait une partie de son podcast et que la réflexion qu'il avait, etc., bah, il y avait un espèce de, vous voyez, j'ai envie de dire un coup, etc., à essayer d'enlever toutes ces imperfections, voilà, qu'il y a tout un tas de trucs. Donc, c'était un épisode qui a maintenant peut-être un an ou deux ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous écoutez Patrick Béja maintenant, vous vous rendez pas compte qu'à un moment donné, il a débuté. Et le fait qu'il vous raconte il y a 5-6 ans bah, comment il a commencé, quels sont les matériels qu'il a fait, ce qu'il a fait, etc., va vous inspirer parce que ça vous montre en fait un peu le schéma de vous dire bah tiens, Patrick Béja, il fait ça et ça et ça, moi ça m'inspire vachement. Waouh, mais tiens, comment il a fait ça, etc. Et là, vous revenez finalement. Et s'il se met à raconter ce qu'il a fait il y a 3-4 ans, comment il a progressé, l'expérience qu'il a fait, l'erreur qu'il a pu faire sur du matériel, etc., d'un coup, ça vous inspire. Mais je vous prends Patrick Béja, j'aurais pu vous prendre Casinestat. Le nombre de personnes qui regardaient les vlogs de Casinestat quand il faisait du quotidien, qui regardent la vidéo de Casinestat et qui se disent, mais comment il fait? Quel est le matériel qu'il fait? Quel est le micro qu'il utilise? Et il y a plein de moyens de le faire. Et un truc qui est très connu, c'est que ceux qui regardent les vlogs de Casinestat et de tous ceux qui font du vlog ont cherché à tout, je dis on parce que je l'ai fait, on cherche dans toutes les vidéos à quel moment en fait il passe dans le reflet d'un magasin, reflet de la glace ou je sais pas quoi dans un hôtel ou j'en sais rien, et on regarde le matériel, on fait pause, ah bah tiens, alors attends, il a un micro comme ça, il a ça et tout, et c'est comme ça que par exemple il y a un truc chez Casinestat qui avait été découvert, c'est comment il utilisait son pied de Joby, vous savez les pieds flexibles pliables, comme étant en fait une sorte de perche à selfie sur lequel il posait son appareil, il arrivait à le tendre comme ça à bout de bras pour se filmer comme ça. Donc, il y a plein de gens qui le font, moi je le fais, il y a plein de gens qui le font parce que c'est très efficace, ça permet de poser des fois l'appareil n'importe où, et puis par moment, ça permet de le tenir en perche à selfie. Mais au départ, ce truc-là, il l'a pas expliqué, les gens l'ont découvert tout simplement en analysant ses vidéos, en analysant les moments où il passait. Puis il y a des gens qui lui posaient des questions, et puis il a fini par raconter, de dire, bah voilà comment j'ai commencé, voici comment j'ai fait des vidéos il y a 3 ans, comment j'ai fait des vidéos il y a 1 an, voici je suis passé par tel et tel appareil, voici comment j'ai fait, je suis passé par tel ou tel truc, voici comment j'ai fait. Et quelqu'un qui débute dans la vidéo sur YouTube et qui veut faire du vlog, comme Casinestat, j'ai envie de dire comme, alors il y a ceux qui vont faire exactement comme lui, et puis il y a ceux qui veulent s'inspirer pour faire raconter leur propre histoire et arriver sur un même cheminement que lui, ça de l'or en barre, c'est de l'or en barre cette histoire-là. Et c'est pour ça que le conseil de Deepak Chopra, il est extrêmement intéressant, c'est parce que oui, on pourrait se dire, je vais faire un livre qui est vraiment destiné, je prends mon audience, je lui raconte, etc., exactement ce qu'il faudrait faire et tout, et en fait, ça marche pas parce qu'on n'accroche pas. Ce à quoi on accroche, en fait, c'est le récit, et le récit de ce que l'on fait. Et vraiment, le récit de ce que l'on fait, en fait, c'est vraiment de regarder, bah, qu'est-ce que je faisais il y a quelques années quand j'ai commencé? Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir? Qu'est-ce qu'un débutant qui veut faire la même chose que ce que je fais moi se pose comme question là tout de suite? C'est quoi sa question qui se pose? Et vous pouvez le prendre dans n'importe quel domaine. J'ai une pensée, tiens, pour Baptiste, par exemple, qui a son podcast, vous savez, je l'avais invité il y a pas très longtemps, sur le coming out. Quelqu'un qui est dans la position de faire son coming out, il est là comme ça, il se pose des questions, mais comment je dois le dire, comment je dois le faire, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et il va chercher des conseils, il va chercher de l'inspiration, des gens qui vont raconter ça. Donc, voyez que quel que soit le domaine, j'ai envie de dire, on a cette position-là, parce que quelqu'un qui est face à un mur, eh ben, il va chercher à regarder comment les autres, ils ont passé le mur. Et voilà. Et quelqu'un qui a passé le mur et qui lui raconte comment il a passé le mur, eh ben, c'est beaucoup plus inspirant que quelqu'un qui lui a dit, en théorie, le mur, si tu fais ça, tu vas arriver à le monter. Non. En fait, c'est pas la théorie qu'on veut. C'est de savoir comment toi, tu as fait pour monter pour grimper le mur. Donc, vraiment, voilà l'exercice que vous allez faire. C'est de regarder ce que, il y a quelques années, quand vous étiez au pied du mur, quand vous étiez au pied de ce mur, de ce truc qui vous disait, voilà, je voudrais faire ça et tout, comment je vais faire ça, je cherche des choses, j'arrive pas, tac, tac, tac. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Ça marche en photo, ça marche en vidéo, parce que j'aurais pu dire la photo, ça marche dans le sport, ça marche dans plein de choses. Et regardez finalement, comment vous avez passé les différentes étapes? Reconstituer les différentes étapes. Et en fait, ce point d'il y a 2-3 ans, 4-5 ans, 5-6 ans, c'est là où se trouve votre audience, en fait. Une grande partie de votre audience, elle se trouve dans ce point-là. Il y en a qui sont un petit peu plus avancés. Et donc, par rapport à vos histoires, il y en a qui se trouvent à votre point de départ. À votre point de départ, il y a 5-6 ans. D'autres qui se trouvent à votre point intermédiaire, il y a 4-5 ans. D'autres qui se trouvent à votre point intermédiaire, il y a 2-3 ans. Et puis, ben, ils se disent, bah, comment t'as fait, etc. Et puis, il y en a qui sont finalement pas très loin derrière, mais qui ont besoin de, vous voyez, peut-être, ce passage de la fameuse dernière pierre que vous avez déjà passé, ou ce passage de la pierre que vous êtes en train de passer, ben, ils sont pas très loin derrière, et ils voudraient bien avoir des indices, etc., pour se demander comment ça se passe. Et donc, maintenant, vous regardez un petit peu tous ces points-là, et regardez maintenant comment vous pouvez reconstituer l'histoire, quels sont les points, à quel moment vous avez pris une décision, qui peut être bonne, qui peut être mauvaise. Regardez comment vous pourrez reconstituer cette histoire-là, et comment ces bouts d'histoire que vous pouvez reconstituer, finalement, vous pouvez les raconter pour que votre audience, elle s'en serve pour arriver finalement à en tirer une sorte de, je dis pas des leçons, mais en fait, des indices, des choses comme ça, pour faire suivre son propre chemin, en fait. Et c'est comme ça que vous tissez le chemin, c'est comme ça que vous aidez vraiment les gens et que vous pouvez mêler assez facilement cette notion de storytelling, de comment raconter des histoires, avec finalement comment vous allez aider votre audience, comment vous allez lui permettre de réussir quelque chose. Et puis, ça vient, vous allez me dire, oui, mais il y a un truc quand même qui me chiffonne à ce point-là, c'est que Bertrand, souvent tu parles de documenter ce que tu fais, etc. Et vous allez me dire, oui, mais ça vient un petit peu en contradiction, c'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que je vous parle de comment le passé m'a servi, etc. Est-ce que je peux pas parler de mon quotidien? Et je vous dis oui, bien sûr que si, on va documenter son quotidien. Et en fait, c'est là que ça vient se compléter. Parce qu'en fait, même quand vous documentez votre quotidien, vous documentez votre quotidien toujours parce que il y a à un moment donné, ça se base sur des choses qui se sont passées un petit peu avant. Et le fait de documenter votre quotidien aussi maintenant va servir aussi à des gens qui sont pas très loin derrière, à des gens qui vont se dire, ah ben voilà, attends, lui il en est à ce point-là, voici ce qu'il fait dans son quotidien. Bon, ça me semble pas vraiment non plus très adapté à ce que je fais maintenant, mais par contre, ça me montre le chemin vers lequel je veux aller, et que moi aussi un jour, ce que toi tu fais dans ton quotidien, j'aimerais bien pouvoir moi aussi être confronté à ça, et je sais que tu l'as déjà passé, et je sais que ça m'inspire, etc. Et puis, quand on documente son quotidien, en fait souvent on fait des flashbacks en se disant, alors attends, j'en suis à ce point-là parce que j'ai passé telle étape. Et là, je peux retourner voir dans le passé quels sont les moments clés qui nous ont amenés jusqu'ici. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans Kilomètre 42, dans mon podcast sur la course à pied, Kilomètre 42 commence, l'histoire de Kilomètre 42, c'est comment je raconte au quotidien, comment je m'entraîne pour mon premier marathon. Mais pour raconter cela, pour raconter cette histoire-là, bien sûr qu'à un moment donné, il faut que je raconte que quelques années avant, je faisais... À l'époque du marathon, j'avais perdu 20 kilos peut-être. Enfin, j'avais pas encore perdu les 27 kilos. Il me restait quand même un petit peu il me reste encore un peu de gras, hein, d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. Donc, il restait un peu. Comment j'étais passé de je ne cours plus, je ne fais plus de sport, à comment j'ai commencé à courir. Ça, je l'ai raconté dans Kilomètre 42. Parce que quelqu'un qu'en fait qui découvre un petit peu, qui commence dans le running, etc. Peut-être que courir un marathon c'est son objectif, mais moi je me suis pas dit aujourd'hui je cours un marathon. Le parcours, comment je me suis entraîné, comment j'ai progressé, quelles ont été mes difficultés. Et à un moment donné j'arrive sur la périostite, je me blesse, je peux pas faire mon marathon. L'histoire de la périostite, il y a énormément de gens par exemple qui m'ont envoyé des messages en me disant alors comment tu as fait pour soigner ta périostite, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé après, comment tu as fait ça, etc. Le choix de mes chaussures, pourquoi à un moment donné je suis passé sur telle ou telle marque. Il y a plein de gens qui me disent ah merde, comment t'as fait. Et donc là il y a des épisodes qui reviennent en me disant voici comment je suis passé au minimalisme et voici vous quels sont les enseignements que vous pouvez avoir sur le minimalisme. Et en fait, en racontant moi mon passage au minimalisme, j'aide des gens à passer eux aussi au minimalisme, en fait, à avoir des petits conseils sur, finalement, comment moi j'ai réussi mon passage au minimalisme et comment eux, ça va les inspirer pour eux aussi c'est passé au minimalisme. Et là, moi, je suis dans une étape du minimalisme qui est nouvelle, c'est que je vais courir en sandales maintenant. J'ai reçu mes sandales cette semaine et donc je vais courir en sandales. Et donc, c'est une nouvelle histoire à raconter, en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pourquoi j'ai voulu courir en sandales. J'ai raconté, j'ai invité des gens qui courent en sandales, etc. Je réexplique mon cheminement, je vais montrer comment je les ai achetés, comment je les ai réglés, etc. Et maintenant, je vais montrer comment je vais commencer à courir avec les sandales. Si notre histoire est quelqu'un qui est inspiré, qui a envie de courir en sandales, il va en retenir des éléments. Mais quelqu'un, ces éléments-là, quelqu'un peut le découvrir maintenant, dans peut-être un an, dans peut-être deux ans. Elle sera toujours valable, en plus, cette histoire. Parce que c'est ce que je veux vous dire, en plus, c'est que c'est un formidable moyen de faire de l'evergreen dans cette histoire. Vous savez, ce contenu qui est toujours valable. Le fait de raconter des histoires fait que l'histoire, en fait, elle est toujours valable. Parce qu'on n'est pas dans de l'actualité. Même si vous rebondissez sur une actualité, il y a des gens qui vont pouvoir faire des passerelles. En fait, des fois, vous vous rendez compte que ce que vous vivez maintenant, eh ben, vous le vivez maintenant d'une certaine manière parce que vous avez vécu des situations qui ressemblaient à ça il y a quelque temps et que la manière que vous avez de réagir à quelque chose, en fait, elle est dictée aussi par votre compréhension de ce qui a pu se passer dans le passé. Et c'est là où vous montrez en plus une expertise vraiment redoutable et vraiment réelle, c'est que là vous comprenez en fait, vous montrez les passerelles que vous avez. C'est comme si par exemple, en analysant ce qui se passe maintenant dans le podcast, vous analysez ce qui se passe maintenant dans le podcast en faisant des comparaisons avec ce qui a pu se passer par exemple sur YouTube il y a quelques années. Tout d'un coup, l'expertise de la personne, elle va vous dire « Ah oui, alors attends, ce truc-là et tout, d'accord, je suis d'accord, etc. » C'est comme ça que vous construisez de l'expertise, c'est comme ça que vous le montrez. Ce qui veut dire qu'en fait, le simple fait d'analyser ce que vous faites, le simple fait de raconter votre histoire, le simple fait de raconter ce que vous avez vécu à un moment donné, les étapes par lesquelles vous êtes passé et les étapes par lesquelles vous passez maintenant, etc., vous permet de créer un contenu qui est presque illimité et vraiment qui vous aide vraiment à aider votre audience, tout simplement parce que derrière, les gens qui arrivent, qui vont consommer vos contenus, qui les consomment maintenant, qui les consomment dans un mois, dans deux mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans, eh ben, ils auront des trucs à les piocher dedans et en se disant, ah oui, alors ce truc-là, là, tiens, ça m'intéresse. Tiens, ça me rappelle ce que je viens de vivre. Ça me rappelle ce que je suis en train de vivre et tout maintenant. Tiens, comment t'as fait? Et à un moment donné, ils vont se dire, bon, il y a peut-être un élément qui me manque, et bien ils vont peut-être vous envoyer un message, pour revenir sur ce que je vous disais hier, mais ils vont peut-être revenir sur un petit message en vous disant, eh, attends, tiens, au fait, il y a un truc que j'ai pas trop compris, ou j'ai besoin d'aide, tu peux pas me tendre la main? Et quand quelqu'un vous dit, tu peux pas me tendre la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin, peut-être d'une formation, peut-être d'un coaching, peut-être de votre livre, peut-être d'un conseil juste amical comme ça, que vous allez lui envoyer en répondant à un mail, etc. Et il va tellement l'adorer qu'il va devenir un super fan, et qu'il va adorer ce que vous faites, qu'il va vous recommander partout. C'est ce que je voulais vous dire, vraiment, voyez, cette réflexion dans ce livre, que je trouve, c'est intéressant, voyez, parce que ce livre, c'est, c'est un livre de poche, hein, il y a 200 pages. Dedans, il y a des conseils, des fois, on se dit, mais comment je fais pour le garder, en fait? Et vous voyez, ce conseil qui tient en une ligne, comme ça, dire, racontez honnêtement votre parcours, prenez dedans les choses, etc., laissez le soin au lecteur d'identifier ce qu'il trouve pour sa propre vie, en fait, c'est exactement le concept du storytelling, en fait, tel qu'on devrait l'appliquer, c'est-à-dire qu'en fait, oui, on peut raconter notre histoire, oui, on va raconter notre histoire, en se demandant, finalement, comment on raconte notre histoire, non pas en tant que héros, mais en tant que guide qui a vécu des choses, etc., et comment les gens qui vont arriver dans notre parcours, qui vont suivre ce que l'on fait, vont pouvoir aller piocher des éléments qui vont leur servir à eux pour construire aussi leur propre histoire, leur propre parcours. Et là, on apparaît comme un guide, et quand on apparaît comme un guide, c'est ce que je dis, ce que je vous répète, et ben à un moment donné, il y a des gens qui auront besoin de vous pour passer la rivière, pour franchir le mur, pour passer cette étape-là, etc. Et ils le feront en consommant vos contenus, mais ils le feront aussi en achetant vos produits, ils le feront en vous demandant de l'aide, ils le feront en vous demandant du coaching, ils vous le feront en vous demandant des conseils, parce qu'ils ont besoin, parce qu'à un moment donné, ils se disent que eh bien, finalement, le meilleur moyen pour arriver à passer ça, c'est de se dire que d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait, et qui l'a fait d'une manière qui, eux, leur semble aussi celle qu'ils ont envie de suivre. Et c'est vraiment là votre position, et vraiment votre boulot, c'est pour ça que je vous répète le truc, regardez votre parcours, regardez les différents points, pourquoi vous avez fait ça, comment vous avez fait ça, qu'est-ce qui vous a été facile, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été plus ou moins compliqué, quels sont les moments où vous avez découvert quelque chose que vous ne pensiez pas possible, etc., ou vous ne pensiez pas que ça fonctionnait comme ça, une surprise, hein, l'erreur, le truc, vous pensiez qu'il fallait faire comme ça, puis d'un coup vous changez de méthode de pensée, ou alors par erreur vous faites quelque chose. Notez-le tout ça, reprenez-le, refaites une liste de tout ça, et maintenant, demandez-vous ensuite comment vous allez poser ça en face de questions que les gens peuvent se poser, des gens qui, vous-même, le vous-même d'il y a 5-6 ans, les questions qui se posaient. Et regardez finalement quelles sont les réponses que vous avez maintenant par rapport à ces questions-là, et comment ces réponses-là, vous les appuyez sur ce que vous avez vécu. Et regardez aussi ce que vous faites maintenant, et comment ça répond aux questions d'il y a des personnes, de vous, il y a 4 ou 5 ou 6 ans, etc., regardez comment vous reconstituez cette histoire-là, et vous avez là une manne de conseils à donner, de manne d'histoires à raconter, une manne de tutos peut-être à faire, de livres à écrire, de formations à monter, ou je ne sais pas quoi, qui devient juste redoutable, j'ai envie de dire. C'est une machine à idées redoutable. Voilà. Je vais maintenant fermer ma bouche en espérant que vous ouvriez la vôtre. Je vous laisse travailler sur ces notions-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos remarques. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les créateurs.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.